Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour le Beaujolais, bonjour le Val-de-Saône, j'espère que vous passez une bonne journée et que ça va continuer en notre compagnie. Nous sommes le mardi 11 octobre 2022, on profite encore cet après-midi de belles éclaircies et de températures autour de 20 degrés. On attend quand même de petites averses dans la soirée et tout au long de la nuit, mais le beau temps devrait revenir dès demain. Dans notre émission, nous avons rendez-vous avec notre conseillère conjugale et familiale, Céline Benck, pour sa rubrique Mots croisés. On va passer un moment également avec notre libraire Bertrand Lamure pour parler livres et lectures en tout genre, suivant son humeur. Mais d'abord, on a rendez-vous avec notre invitée du jour, Nathalie Petrosi-Bédagnan, du Centre culturel de Jassan. On va parler de ce lieu, de ses activités, lieu de spectacle vivant, et évidemment, de création aussi, avec de nombreuses résidences d'artistes, et puis lieu de vie tout simplement, avec une vie associative qui semble assez riche. Alors comment il fonctionne ce centre culturel et qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir de beau cette année? On en parle dans quelques minutes avec notre invité. Pour commencer, on écoute quoi? On va écouter Lesure et Muroki, un morceau qui s'appelle Summer Season. On n'est pas pressé, il fait beau, on est tranquille, on est ensemble sur Calade. Et il est 12h15, merci d'être avec nous.
Baby, don't lie. Summer season won't be gone for too long. I know we're playing for keeps. I have been cold for just one too many nights. Summer season. Summer season got me right. Summer season. Summer season, take me back to the start. Feel my body go down. I know I want you around, baby. Lavish beach, small town. Go. I know my baby don't lie. Summer season won't be gone for too long. I know we're playing for keeps. I have been broken just one too many times. Summer season. Summer season got me right. Summer season. Summer season, take me back to the start. All in time, all in good time. All in time, all in good time. If the sun goes down, can't let you fall away. My baby don't lie. Summer season won't be gone for too long. I know we're playing for keeps. I have been cold for just one too many nights. Summer season. Summer season. Summer season. Summer season. Take me back to the start. All in time. All in good time. All in time. All in good time.
Summer Season, on vient d'entendre sur Calade ce joli morceau. C'était signé Lésure et Muroki.
Ensemble sur Calade.
Allez, il est temps d'accueillir notre invité du jour avec nous en studio. C'est Nathalie Petrodi-Bédagnan. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue nous voir. Aujourd'hui, on va parler du centre culturel de Jacen Rioutier.
Oui, petit centre culturel de l'autre côté de la Saône.
Exactement. Comment est-ce que vous présentez ce lieu quand on vous demande où est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous dites?
Alors, pour nous, en fait, quand on présente le lieu, on le présente un petit peu comme un petit joyau, pour la bonne raison qu'il est à dimension humaine et que chaque fois qu'il y a des artistes qui sont venus, ils se sont toujours sentis bien. Et pour nous, c'est important que les artistes qui viennent chez nous et le public aussi s'y sentent comme dans un petit cocon.
Ouais. C'est une ancienne ferme,
voilà.
Le centre culturel. Ça fait un moment déjà qu'il a été transformé en lieu culturel. C'était quoi l'objectif à la base de la municipalité en créant ce lieu?
Donc l'objectif, c'était effectivement de réhabiliter les locaux, d'en faire un lieu de convivialité et de culture. Et la nouvelle municipalité, d'ailleurs, a de grands projets, puisqu'on va être en travaux l'année prochaine.
D'accord.
On ne sera pas fermé, mais on sera en travaux.
Ouais.
Et en fait, il va y avoir un grand bouleversement, puisqu'on va avoir des locaux tournés vraiment, de nouveaux locaux tournés vraiment vers la résidence et la création, et qui seront tournés essentiellement autour de studios d'enregistrement son, de répétition pour les groupes de musique. Et un second plateau, en fait, aussi, qui sera destiné à des résidences d'artistes et des créations. Mmh. Donc, on s'affirme un petit peu plus comme un vrai lieu de création.
Ça fait déjà pas mal partie de, on va dire, de la personnalité de ce lieu, d'accueillir des artistes. C'est quelque chose que vous faites beaucoup, ça va d'autant plus se développer.
Tout à fait, en fait, on y tient beaucoup parce que il nous semble important d'accueillir les artistes, il leur manque des lieux. Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir un lieu qui est vide la journée. Mmh. Donc, chaque fois qu'on peut proposer, on le propose à des artistes. Ils viennent un petit peu de toute la région. Maintenant, avant, ils venaient plutôt de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Maintenant, on en a de Lyon, de Bourg, voilà, de l'Ain et du Rhône.
Les artistes parlent entre eux.
Et voilà. Ils parlent beaucoup entre eux,
ouais.
Et de fil en aiguille, en fait, voilà, ils viennent. On est le copain d'eux qui est venu créer, et ce qui rend le lieu, en fait, très sympa et très vivant. Mmh. Avec, par exemple, samedi matin, on avait une troupe de jeunes publics qui testaient les 0-3 ans. Voilà. Alors, ils ont joué gratuitement. On avait fait un petit panel de public et ils ont testé pour voir si ça fonctionnait ou pas.
Ah ouais.
Voilà, donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des sorties de résidence, alors qu'ils ne sont pas forcément annoncés dans le programme. On les annonce des fois sur le site.
Mmh.
Et l'objectif, c'est d'aller rencontrer des artistes, de tester, voir ce qu'on a à en penser. Et puis pour que continue le processus de création.
Et vous avez parlé de studio d'enregistrement, ça veut dire que ça va être plutôt axé musique, du coup
Voilà, alors nous, on était plutôt axé théâtre, jeune public, et la création de ces studios d'enregistrement vont effectivement nous mettre vraiment du côté musical. Alors il y aura le côté théâtral qui va être renforcé, mais là, on ne pouvait pas guère offrir de résidences musicales, on en avait quelques-unes. Mmh. Alors que là, il y aura vraiment un équipement son, un ingé son, j'espère.
Ouais.
Et puis avec des idées aussi d'enregistrement, ou au moins de maquettes. Mais ça, on pourra vous en parler plus longuement, je pense, d'ici une petite année.
D'accord. Bon, le rendez-vous sera pris à la fin de notre interview, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'y passe au quotidien au centre culturel? On a évoqué les résidences. Je disais en début d'émission qu'il y a une grande vie associative. C'est un lieu qui sert à beaucoup de monde, en fait.
Oui, en fait, il y passe du monde. Donc, on a pas mal d'associations qui viennent aussi répéter chez nous. Que ce soit dans le domaine des arts plastiques, de la céramique, du théâtre.
Mmh.
Parce qu'on a 3 troupes amateurs qui viennent répéter le soir. Et on organise aussi beaucoup d'actions de médiation culturelle. Donc, notamment à destination des jeunes, avec l'organisation de stages. Alors, on a notamment un stage théâtre avec Émilie Durmarc, qui est assez connue dans le Beaujolais, puisqu'elle travaille avec le CCRB, donc qui est quelqu'un de reconnu et qu'on est très content, en tout cas, voilà, d'avoir retrouvé, et qui va animer un stage théâtre pendant les vacances de Toussaint. Ensuite, on va avoir un stage cinéma pendant les vacances de février, et les vacances de février, un stage choral. Donc l'idée, c'est de donner envie, en fait, avec des professionnels, pour que les jeunes et les moins jeunes, puisque la chorale s'adressera plutôt à des adultes, de pratiquer et d'aller aussi fréquenter les salles de spectacle.
Ouais. Tous ces stages dont vous venez de parler, comment est-ce qu'on peut s'y inscrire et y participer? On retrouve les informations en ligne quelque part?
Alors, on a les informations sur notre site internet, sinon il ne faut pas hésiter à nous appeler. Ouais. Et parce que c'est vrai que des fois tous les stages ne sont pas dans la plaquette, parce qu'en fait nous on fonctionne beaucoup à la rencontre, et dans l'année on peut rencontrer des gens qui nous plaisent, avec qui on a envie de travailler, et à ce moment-là on met des choses en place.
D'accord. On va parler un petit peu de l'aspect spectacle vivant et de ce qu'on peut voir sur la scène de ce centre culturel. La plaquette, elle est déjà pas mal remplie. Comment est-ce qu'elle se remplit, justement? Comment est-ce que vous la créez, cette saison?
Alors, la saison, elle est créée de plusieurs manières. D'abord, on va toujours voir les spectacles qu'on programme. Donc, on a une programmation toujours avec des professionnels. Donc, il y a les spectacles qu'on a aimés, les coups de cœur qu'on a envie de faire partager. Et puis, on essaye, sur un ou deux spectacles, de laisser la place à des résidences d'artistes, des gens qui sont venus répéter et créer chez nous, dont on a aimé le travail, plus particulièrement, et on leur ouvre des portes, ce qui est le cas, par exemple, cette année, avec L'homme qui plantait des arbres. C'est une création qui a eu lieu chez nous. On a aimé ce mélange audiovisuel, théâtre, sur le texte de The Giono. En plus, c'est vraiment dans la thématique, puisque c'est sur les arbres et l'importance des arbres. Ouais. Donc c'est un texte assez écologique, en tout cas militant. Donc on les a fait revenir en février.
C'est à partir de 8 ans. Ça veut dire qu'en fait, ils ont travaillé l'année dernière, ils ont fait une résidence pour créer ce spectacle.
Voilà, ils sont venus le créer chez nous. Après, ils l'ont testé un petit peu ailleurs. On les a suivis parce qu'on a un bénévole qui vient aussi faire des photos pour aider aussi les troupes à faire toute leur com. Ouais. Et puis, ça nous a plu, donc on a eu envie de les faire revenir.
Très bien, ça c'est L'homme qui plantait des arbres avec Aurélien Serre et la direction artistique Catherine Demeure et Marie Rouge. Ce sera le 24 février.
Voilà, c'est ça.
Déjà noté dans son agenda.
Après, tous les spectacles nous tiennent à cœur. On en a un sur lequel j'aimerais insister, c'est Gardienne, parce que ça a été un choix qui a été, qu'on a pris. C'est un très très beau spectacle qu'on avait découvert à Avignon et qui parle du thème de l'avortement, donc sur plusieurs générations de femmes, et dans l'actualité où effectivement on voit que c'est un droit qui est remis en question de plus en plus aux États-Unis, mais qui commence à l'être aussi en Europe. On le voit un peu en Italie, en Hongrie. Ouais. Donc c'est vraiment une thématique qui nous tenait à cœur, surtout que le spectacle n'est pas du tout larmoyant. La comédienne est d'abord resplendissante, rayonnante, mais on suit son histoire, il y a des pointes d'humour. Enfin, c'est quelqu'un qui sait très bien faire passer son message, et on suit son odyssée de femme sur plusieurs générations, avec vraiment beaucoup d'intérêt, et j'invite vraiment les gens à venir découvrir ce spectacle. Parce que c'est vrai que des fois, la thématique, on se dit ça va être plombant, déjà que la société. Voilà, mais non, ça passe très bien. Et puis vraiment, c'est un spectacle qu'on a beaucoup aimé et qui jouera donc le 4 mars chez nous.
Spectacle militant, encore une fois.
Voilà, militant. On a voulu cette année, au moins sur quelques spectacles, être militant. La troisième chose, c'est notre Honeyland. Qui sera une projection en fait d'un film le 8 novembre, qui lui est sur les abeilles et sur tout ce qui se passe autour du monde des abeilles qui tendent à disparaître.
C'est l'apiculture en Europe de l'Est, je crois, entre tradition et industrialisation.
C'est l'industrialisation qui amène du coup des changements, mais qui ne sont pas forcément heureux. Mmh. Et donc c'était dans le cadre, en fait, on s'est associé à la médiathèque, puisque c'était la semaine du documentaire. Ouais. Et ça nous intéressait aussi, dans notre côté un peu militant de cette saison, de l'inclure dans la saison. Et en plus, on a invité des apiculteurs à venir parler aussi de leur métier et de leurs difficultés.
Donc ça, c'est une projection, c'est du cinéma. Oui. Vous avez évoqué Avant Gardienne, qui est un seul en scène, on est plutôt dans le théâtre. L'homme qui plantait des arbres, c'est du théâtre également, mm-hmm. tout public cette fois. Il y a plein de choses différentes, il y a de la musique également, enfin des concerts.
Au niveau donc musical, on aura Tram des Balkans, donc qui est un groupe très très dynamique, fait par des jeunes musiciens qui cette fois se sont associés avec Mélissa Zantman, qui est une merveilleuse chanteuse. Alors eux, c'est le Peps Intégral, on les avait fait venir il y a quelques années, tout le monde dansait dans la salle. Et Dieu sait que notre salle est petite, on avait poussé les chaises pour finir. Alors là, c'est de la bonne humeur garantie et du soleil pour toute la journée et même pour le mois suivant. Voilà. Donc,
le Tram des Balkans. Et je trouve qu'il y a une grande proposition jeune public dans votre programmation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est la salle est particulièrement adaptée. Peut-être grâce à la proximité qui peut y avoir au jeune public, c'est un hasard.
Non, c'est pas un hasard. C'est vrai que d'abord nous, on trouve que c'est important de faire du jeune public parce que ce sont on a des valeurs à travers le spectacle vivant à faire passer. Que le spectacle vivant, c'est très bien pour eux aussi de voir qu'il existe autre chose que la télé et d'en sentir l'essence et puis l'importance. Et en fait, on travaille beaucoup avec aussi des compagnies dont on aime bien le travail. Mmh. Et vous l'avez très bien souligné, on a beaucoup de jeunes publics. On travaille avec les écoles et avec les familles. Donc on aura notamment Vieillardise, qui est sur le thème de la vieillesse, qui n'était pas un thème non plus facile, mais qui est très bien traité avec du théâtre d'objets. Mmh. Donc ça, ce sera le 9 décembre. Et on poursuivra l'homme qui plantait des arbres, on en a déjà parlé, et Toc Toc Toc, qui est un très jeune public cette fois, sur une ambiance un peu pop art avec beaucoup de papier, de couleurs, de décors. Et ça, c'est une compagnie qu'on a découvert et qu'on aime beaucoup, et qui est vraiment très adaptée aux tout petits.
Vous avez parlé de la projection d'Onéland qui est en lien avec la médiathèque, de spectacles jeunes publics qui sont en lien avec les écoles, le centre culturel de Jassan. J'ai l'impression que vous travaillez aussi pas mal avec les structures extérieures. Vous n'êtes pas fermé sur vous
Non, on n'est pas fermé. Au contraire, on veut être un lieu ouvert. Donc c'est vrai que par exemple, le Vieillardise, on travaille avec le lycée agricole de Sibens, puisque eux vont avoir des ateliers artistiques et des rencontres avec les comédiens qui vont faire tout un travail et avec une EHPAD. On a aussi un autre jeune public qu'on n'a pas mis dans la plaquette parce que c'était une résidence de l'année dernière et là qu'on a programmé mais juste pour des scolaires avec le collège de Jassan. Ouais. Donc qui s'appelle Maman c'est quoi une culottée, qui est sur en fait les femmes qui sont devenues célèbres tout au long de l'histoire mais parce qu'elles se sont battues pour l'être. Donc ça ouvre à débat. Donc effectivement, il y a tous les scolaires, il y a la médiathèque. On travaille aussi avec le centre social qui va venir en fait nous faire du street art sur les murs qui vont être écroulés puisque les travaux vont nécessiter d'abattre certains bâtiments. Donc du coup, on aura du street art là pendant quelques mois chez nous. On travaille avec le conservatoire. C'est vrai qu'une nouvelle fois, on souhaite que ce lieu soit ouvert et reste ouvert.
Très bien. On a commencé cette discussion un peu autour des résidences et vous nous disiez que certaines résidences qu'il y avait l'année dernière venaient jouer cette année. Qu'est-ce qui se prépare cette année? Vous savez déjà un petit peu les artistes qui vont venir vous voir?
Alors là, on a du mal à cerner parce que comme on est un petit peu ouvert à la demande, donc c'est vrai que les artistes s'y prennent un petit peu au dernier moment. Ouais. Donc là, on a un carnet plein jusqu'à la fin de l'année. Là, on a eu quasiment au moins 6 compagnies depuis septembre. ensemble qui se sont succédés
chez
nous. Donc voilà, parce qu'après, il y en a qui viennent créer, il y en a qui viennent faire leur teaser, il y en a qui viennent juste faire la scénographie. Donc, et puis, on commence à avoir des demandes pour l'année prochaine. Donc, on essaye de jongler avec tout ça.
Très bien. Si on veut plus d'infos sur ce qui se passe à ce centre culturel, il y a un numéro de téléphone, on peut le donner ?
Oui, c'est le 04 74 66 38 62.
Et puis sinon, le site internet ?
Et le site internet, donc, qui est le www.centre-du-6-culturel.toutattaché-jacinriotier.fr. Et vous pourrez y retrouver tous nos autres spectacles, parce qu'on a aussi beaucoup de comédies.
Effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a plein de...
On rigole quand même au centre culturel.
Il y a Shame of Throne le 18 novembre avec Jacques Chambon et Brigitte Jouffre.
Voilà, le Merlin de Kaamelott qui vient nous rendre visite régulièrement.
On devrait bien rigoler.
Voilà, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, Nathalie Pretrotti-Bédagnan. Et puis, à très bientôt.
Merci à vous en tout cas, à bientôt.
Le prochain rendez-vous au Centre culturel, on ne l'a pas forcément évoqué, mais c'est dans le cadre des Nouvelles Voix, avec un musicien qui s'appelle Abel Chéret, je le prononçais correctement. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Voici Space Trip sur Khaled.
À bord de notre vaisseau spatial, le soleil au bout du pare-choc, on compare la taille de notre appétit à celle de l'infini. Une boulimie phénoménale, née de deux corps qui s'entrechoquent. On engloutit des années-lumière pour un road trip interstellaire. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues à la conquête de l'espace. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues à la conquête de l'espace. Quitte à mordre la poussière d'étoiles, on dévore tout comme des trous noirs. Rien ne calme l'affront frénétique d'une quête orgasmagorique. Les ventres brûlent, on fait escale sur un parking et sous les phares. Sabre laser, nos gestes découpés, scène floutée par brise embuée. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues à la conquête de l'espace. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues à la conquête de l'espace. C'est une épopée métaphysique, une légende universelle. Notre attirance magnétique, chimie de la fusion intemporelle. C'est une épopée métaphysique, une légende universelle. Notre attirance magnétique, chimie de la fusion intemporelle. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues à la conquête de l'espace. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues. Tu veux la lune, je veux Mars. Nous sommes deux âmes perdues à la conquête de l'espace.
Ça s'appelait Space Trip, un morceau de Abel Chéret. Il est en concert au Centre culturel de Jassan dans le cadre du Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais.
Ensemble sur Calade.
Mots croisés.
Oui, c'est l'heure de la rubrique Mots croisés. Et pour ça, on retrouve aujourd'hui notre conseillère conjugale et familiale, Céline Benck. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être avec nous en studio. Vous avez un cabinet à Villefranche où vous donnez des conseils, vous recevez des gens et vous prenez le temps, une semaine sur deux, de venir nous donner des conseils à nous aussi sur Calade.
Tout à fait.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'éducation affective et sexuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Voilà, en fait, c'est un deuxième volet de mon activité. Donc, j'ai un cabinet en libéral, effectivement. Et j'interviens aussi beaucoup dans les établissements scolaires, en primaire, collège et lycée, auprès des parents aussi, sous forme de conférences, pour parler d'éducation affective, relationnelle et sexuelle avec les jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, l'éducation à la sexualité, elle s'inscrit dans le code de l'éducation qui a été prévu par une loi en 2001. Et cette loi, en fait, elle propose qu'il y ait une information, une éducation à la sexualité qui soit dispensée par au moins 3 séances annuelles. Par groupe, enfin pour chaque classe, ce qui est loin d'être le cas en fait.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est assez compliqué à mettre en place. Donc souvent les établissements font appel à des organismes extérieurs pour assurer ça. D'autres établissements font appel à certains profs qui sont formés.
C'est le prof de SVT qui s'en charge.
Pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a la SVT en quatrième qui va plus parler au niveau de prévention. Les choses comme ça, mais nous, enfin, je vais vous expliquer un petit peu, ça va un petit peu au-delà. Donc, ouais. C'est pas que l'éducation à la sexualité, c'est l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, c'est bien plus large et ça englobe énormément de thèmes.
Et donc, ça se passe où ? Ça se passe en milieu scolaire ?
Les parents ont leur premier rôle à assurer par rapport à ça. C'est vraiment eux les premiers éducateurs de leurs enfants. Par contre, on peut ne pas être très à l'aise pour en parler, parce que peut-être soi-même, on n'a rien reçu par ses propres parents. Et c'est un peu, en fait, comme je vous en parlerai plus tard, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, c'est-à-dire qu'on en fait tous sans le savoir. Ouais. Je vous expliquerai après. Deuxième lieu, ça va être les établissements scolaires, avec justement le programme qui est prévu. C'est un véritable espace d'écoute et de parole pour les jeunes, et c'est important pour eux d'avoir ce moment-là. Et puis enfin, il y a les copains et tout ce qui se dit sur les réseaux, qui va, enfin, tout ça, ça va... Malgré ce que souhaitent les parents, ça va aussi donner des idées plus ou moins bonnes aux jeunes.
Le monde autour de nous,
voilà, tout à fait.
Nous apprend des trucs pas forcément toujours super. Du coup, à quoi ça sert de recevoir une bonne éducation affective et sexuelle ?
Alors, ça sert à trois choses. Déjà, ça sert à prévenir. Donc ça, c'est aussi le rôle de... Enfin, ce que voulait aussi l'éducation nationale. Prévenir les IST, les grossesses non désirées, les abus sexuels. Mmh. Et là, on touche à un sujet qui est vraiment très important et très grave et qui est rejoint par la pornographie. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous savez, Mathieu, mais à 12 ans, près d'un enfant sur trois est exposé à la pornographie, ouais. Alors que 7% seulement des parents le savent. Selon le ministère de la Santé.
C'est terrible, un enfant sur trois.
C'est ça, donc c'est un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui, la pornographie, elle est accessible partout, de façon anonyme, gratuite. Enfin, voilà, tout le monde peut y avoir accès dès lors qu'il y a un smartphone qui est dans la poche, ou une tablette, ou un écran. Et on sait que tous les élèves, dès la sixième, sont pour la plupart équipés. Mmh. Donc en ce moment, vous le savez peut-être, il y a un procès entre l'ARCOM, là, c'est l'autorité de régulation de communication audiovisuelle numérique, et 5 des principaux sites pornographiques. Ouais. Donc voilà, il y a un véritable enjeu pour protéger les jeunes de ce fléau, de
bloquer l'accès aux jeunes sur Internet. Une fois qu'on a accès à Internet,
c'est ça.
Tout est très très simple, malheureusement.
C'est ça. Alors, la deuxième objectif, c'est d'être d'informer les élèves, répondre aux questions sur la sexualité, sur la contraception, sur comment mon corps fonctionne, pouvoir aussi s'émerveiller de ce corps qui change à l'adolescence, connaître le rôle des émotions, voilà, savoir comment on fonctionne en tant que personne humaine. Mmh. Et puis le troisième volet qui est de loin le plus important et le plus intéressant, ça va être de les faire réfléchir et de les faire grandir dans toutes leurs dimensions, les jeunes. C'est-à-dire, on n'est pas juste un corps qui change, on est aussi un cœur, une tête. Et donc, ça va être important d'apprendre à se connaître, à s'aimer comme je suis, à se respecter, à se faire respecter, faire des choix qui vont me rendre heureux, qui vont me rendre heureuse. Développer aussi toutes les compétences relationnelles, c'est-à-dire savoir dire oui, savoir dire non, demander, donner, recevoir. Enfin, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent.
C'est hyper important, c'est des choses qui semblent essentielles. Ça devrait faire partie du cursus scolaire.
Ah bah, complètement. Tout à fait. Il y a des pays dans le nord de l'Europe qui intègrent ça davantage, ou au Canada aussi, davantage dans l'enseignement général. Et c'est sûr que c'est autre chose que d'apprendre à faire des maths ou à parler français, mais en même temps, c'est tout aussi important, parce que c'est toute la vie relationnelle, en fait.
Ouais.
C'est comment on apprend à aimer, comment on gère un conflit, comment on développe aussi un esprit critique, notamment par rapport à la pornographie. On incite les jeunes à avoir un regard critique par rapport à ce qu'ils voient et bien faire la différence entre ce qu'ils voient et la vraie vie, en fait.
Ouais, bien sûr, c'est important.
Ouais. Et puis, ça les aide aussi à élargir leur vision. C'est-à-dire que la sexualité, ça ne se réduit pas à la génitalité. Ça englobe tout. Mmh. Et notre désir le plus fort, en fait, à tous, à adultes et jeunes, c'est d'aimer et d'être aimé, en fait. Mmh. Et souvent, enfin, la question est très bonne, mais souvent, la réponse qu'on va chercher n'est pas toujours la meilleure. Parce que du coup, la pornographie devient un peu une éducation à la sexualité pour les jeunes. Et là, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond.
Et comment ça se passe alors quand en tant que parent, on aimerait essayer d'aborder ces sujets qui ne sont pas faciles à aborder? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre?
Alors, déjà, pour les parents qui ont des petits-enfants, il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait en fait dès la naissance. Je parlais de Monsieur Jourdain tout à l'heure, c'est-à-dire que la façon dont on va porter notre enfant, dont on va le câliner, on va le changer, on va nommer ses parties sexuelles, tout ça, ça va participer de notre... comment on voit le corps, comment on en parle à notre enfant, et du coup, comment lui, il va percevoir son propre corps. Et ça dit déjà des choses sur l'amour et sur le corps. Ça va être aussi... la façon dont on parle des événements familiaux, la naissance dans la famille, la mort, la séparation, mais ça peut être aussi chez les voisins. Comment je vais parler des femmes, des hommes, comment je vais parler de mon conjoint, comment je vais parler du père de mon enfant si je suis séparée. En fait, plus tôt on en parle, plus c'est facile de continuer après d'en parler.
Et si on fixe des tabous dans le cercle familial, après ces tabous s'installent et c'est des sujets dont on parlera jamais et sur lesquels on...
Alors c'est ça qui est difficile, c'est que l'ado, en grandissant, bah, il va se renfermer dans sa coquille et là ce sera vraiment compliqué d'aller... et il voudra pas parler de son jardin secret, ce sera vraiment difficile. Donc on peut quand même, heureusement, tout n'est pas fichu si on n'en a pas parlé petit.
Ouais.
En tout cas, ce qui est important, c'est d'oser une discussion, s'intéresser à ce qu'il fait, s'intéresser à ses jeux vidéo, pourquoi pas jouer avec lui, voir où il en est dans ses amitiés, au niveau du collège, s'intéresser à lui autrement que par ses notes aussi au collège.
Ouais.
Lui montrer qu'on l'aime, quoi qu'il arrive, quelles que soient ses notes, et qu'en fait, notre amour n'est pas conditionné à sa réussite scolaire.
Et c'est ça qui va permettre d'engager du dialogue plus facilement que si on est juste...
Peut-être, et déjà, lui, ça va lui donner aussi une image de lui valorisée, il va se sentir aimé.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment important, parce que s'il ne se sent pas aimé, il va aller chercher aussi à l'extérieur des vérifications pour savoir s'il est vraiment aimé, et peut-être jusqu'à se mettre en risque dans des situations qui ne vont peut-être pas l'aider à grandir. On peut parler de la sexualité en général, mais c'est important de ne pas parler de sa sexualité en tant qu'adulte. La différence générationnelle est capitale, c'est aussi le préserver au niveau de la pudeur, dire que voilà, je ne vais pas te raconter ma sexualité, ça ne te regarde pas, mais je peux parler de la sexualité, et c'est l'occasion aussi pour les parents de transmettre leurs valeurs, les choses qui sont importantes dans la famille auxquelles on croit, et pouvoir en parler. Et ça, chaque famille a ses propres valeurs, et c'est important d'oser transmettre tout ça. Et puis enfin, par rapport aux écrans, c'est vraiment important que les parents y posent un cadre aussi.
Ouais.
Voilà.
Très bien, bon, ça fait beaucoup de choses
oui.
À assimiler. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là pour nous aujourd'hui. Je rappelle donc Céline Benck, on vous retrouve à Villefranche, et puis vous avez, si on veut discuter avec vous, en savoir un peu plus, vous avez un site internet conseilconjugal-célinebenck.com.
Tout à fait.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci Mathieu.
À très bientôt.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, un peu de musique, je vous propose d'écouter Queen et David Bowie. Voici Under Pressure. Facile de les interrompre, mais bon, il faut qu'on continue dans le programme de notre émission. Il est temps de parler littérature.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
C'était tellement beau comme morceau. C'était Under Pressure de Queen et David Bowie. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va bien, en forme ?
Eh ben ça va, peut-être un petit peu moins que le morceau précédent, mais...
de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Qu'avez-vous prévu pour nous ?
Ben, je me suis dit, est-ce possible de passer à côté du prix Nobel de littérature, remis bien évidemment à Annie Ernaux ? Eh bien non, je ne pouvais... j'étais obligé d'en parler, et en parler en plus avec joie. D'abord parce que je trouve que c'est, même si on en pense qu'on en veut, du prix Nobel, etc., ça reste toujours ces grandes distinctions, comme nous en France, les prix littéraires, etc. Mais là, ça prend une dimension internationale, qui a un côté, il faut bien le reconnaître, un peu presque magique, quoi. Et alors, donc, nous, on est un peu habitués, hein, parce que ça fait la 17e fois qu'il y a un écrivain ou une écrivaine, parce que c'est la première écrivaine française, à recevoir du coup le Nobel de littérature après les Modiano ou autres Le Clésio. C'est vrai que j'avoue, je reconnais que je ne la voyais pas arriver. Ça a été un peu une surprise, mais pour ma part, une belle surprise. Alors, je voulais quand même un petit peu, très rapidement, parce qu'en quelques minutes, évoquer Annie Ernaux, ça avait presque une injure, mais quand même, je souhaitais un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on s'est rendu compte à la librairie qu'en fait, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Annie Ernaux, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, je trouve que c'est bien d'évoquer cette femme. Alors, Annie Ernaux, rapidement, donc elle est née en 1940 en Normandie, et tout au long de sa vie, elle va être enseignante en lettres, elle va après intégrer l'université, et elle va très vite écrire. Et elle va écrire, alors, ça déroute un petit peu un certain nombre de lecteurs ou lectrices, parce que il y a un côté très autobiographique. C'est-à-dire qu'elle part toujours de l'élément personnel pour arriver à décrire une situation, arriver à décrire une période. Et pour moi, je trouve que c'est ce qui fait toute la force de cette écriture, qui n'est pas vraiment du roman, tout en l'étant un peu, et qui n'est pas forcément une énième autobiographie comme on pourrait l'imaginer. Et effectivement, elle a commencé à écrire en 1974 avec Les Armoires Vides chez Gallimard, où elle a fait, entre guillemets, toute sa carrière. Alors, je voulais évoquer quelques titres qui, pour moi, reflètent bien effectivement la pensée et l'univers d'Annie Ernaux. Donc il y a par exemple un titre en 1997 qui s'appelait « La honte ». Et la honte, elle évoque toute sa jeunesse principalement, parce qu'elle est issue d'une famille relativement pauvre, qui du monde de l'usine va réussir à ouvrir un café à Yvetot. Donc Yvetot est très présent dans son œuvre. C'est une petite ville de Normandie où les parents ont ouvert un café. Et là, effectivement, elle, tout au long de sa jeunesse, elle va être... Alors, pas forcément marquée par cette pauvreté, parce qu'elle n'en a pas conscience, comme elle le dit au départ, mais évidemment, au regard des autres, parce que par exemple, sa mère est très catholique, très croyante, donc elle va dans une école privée, et donc elle est renvoyée à des gens qui ont beaucoup plus d'argent, qui ne sont pas du même milieu qu'elle. Donc en fait, c'est un livre qui va beaucoup marquer pour la notion de transfuge de classe, même si je sais qu'elle n'aime pas cette expression, mais pour l'idée quand elle va plus tard en tant qu'intellectuelle, en se mariant, elle va, entre guillemets, changer d'univers, changer de classe. Mmh. C'est toute une littérature qu'on retrouvera après avec des gens comme Didier Ribon et encore plus récemment avec Édouard Louis. Et c'est très intéressant de voir comment elle part de son postulat à elle et qu'elle évoque effectivement aussi toute cette condition de Français qui ont évolué pour des raisons X, Y. Et donc voilà, ça en fait un titre qui m'a beaucoup intéressé. C'est le même cas autour de La Femme Gelée. La Femme Gelée, c'est un texte qu'elle a écrit en 1981. Et elle revient en fait sur cette femme gelée, c'est-à-dire la place de la femme. Faut bien voir qu'elle est née en 40, hein, donc elle, c'est tout l'après-guerre. Et quelle est la place de la femme? Alors elle a eu, entre guillemets, la chance d'être dans une famille où les femmes avaient du poids, du pouvoir, du caractère. Que ça soit sa grand-mère, sa mère, ses tantes, que ça soit le lien avec son père où les tâches étaient partagées, même si ça n'allait pas soit loin de là. Et justement, elle met l'accent sur la place de ces femmes dans le couple, dans la famille, dans le travail. Encore une fois, ils sont à Yvetot, ils ont un café. C'est un travail de couple, pas forcément évident. Pour tous ceux qui travaillent, les couples travaillent ensemble, c'est pas toujours évident. Et du coup, là, elle a ouvert la porte, hein, alors comme d'autres avant elle, Simone de Beauvoir et autres, à ce féminisme. Et aujourd'hui, on a beaucoup de lycéens qui lisent La Femme Gelée. Alors, on les oblige un petit peu, hein, bien sûr, les enseignants. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant que ça soit lu en lycée, parce que ça évoque justement cette place de la femme. Donc, pareil, elle a ouvert aussi là tout un champ intéressant. Et puis aussi, le côté de cette fille qui pouvait paraître parfois un peu scandaleuse dans ses amours, avec Mémoire de fille, où elle évoque son 18e anniversaire. Et dans Mémoire de fille, elle évoque son été, l'été de ses 18 ans, où elle va avoir des aventures sexuelles, etc. L'été de ses 18 ans, on est en 1958. Alors c'est un peu plus tôt l'été où le général arrive, et si on se rappelle un tout petit peu Yvonne de Gaulle, s'agissait pas de rigoler avec ça. Et voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Ah, elle a fait un autre texte qui était Passion simple, l'histoire d'une passion d'une femme pour un homme marié qu'elle va attendre, qu'elle va espérer. Et ça sera également le cas dans son dernier texte qui est sorti cette année, qui s'appelle Le jeune homme, où elle relate, alors c'est un texte assez court, où elle relate sa relation qu'elle a eue avec un jeune homme de 30 ans de moins qu'elle. Pareil, on retrouve les mots, on retrouve l'univers et on retrouve ce souffle d'une génération. Et c'est véritablement ça avec Annie Ernaux, c'est vraiment le souffle de tout cet univers des baby-boomers, cet univers de l'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ça a quelque chose d'assez, pour moi, d'assez extraordinaire. On est parfois dans la sociologie, parfois dans le féminisme, parfois dans l'histoire, parfois dans la revendication. C'est quelqu'un qui est assez militante, hein, et c'est très bien. Et le dernier point, c'est sorti il y a quelque temps un film qui est visible sur Arte en ce moment, qui s'appelle Les années Super 8. Et elle, c'est toute une série de films qu'elle a tourné avec ses enfants, elle a deux fils, dans les années 70. C'est, du coup, c'est leur jeunesse, c'est leur univers, mais c'est aussi l'univers des Français. Hein, voilà, nombreux ont été les Français qui ont pris en photo et qui ont filmé leurs enfants, etc. Et c'est un film où elle est en bande son et elle explique tout cet univers. Et du coup, ça nous renvoie à quelque chose aussi d'assez extraordinaire pour ceux qui sont nés dans les années 70. Voilà un petit peu l'univers. Et je voulais terminer parce que tu m'interromps pas. Donc
je te laisse, je suis pendu à tes lèvres, Bertrand.
sur un petit texte qu'on connaît pas, en fait, et qui s'appelle, d'Annie Ernaux, « Regarde les lumières, mon amour ». Et « Regarde les lumières, mon amour » est en fait un petit texte sur le supermarché. Elle habite à Cergy, elle habite toujours à Cergy, donc Cergy c'est le Val d'Oise, c'est pas forcément, on pense qu'Annie Ernaux elle va plutôt être du côté du Paris 6e ou autre, et ben non, elle habite toujours à Cergy, et donc elle fréquente comme tous les Français un peu le supermarché, et on a fait un texte comme quoi elle a passé une année à noter tout ce qu'elle voit au Auchan du coin, donc de Cergy-Pontoise, et tout ce qu'elle va côtoyer. Et elle évoque très bien ce phénomène que le supermarché, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu pour briser une solitude, c'est un lieu pour briser un quotidien, c'est un lieu où on ne veut pas aller, où on considère que c'est affreux, et en même temps, on est complètement fasciné par ces lieux. C'est aussi des histoires de vie qu'on va rencontrer ici. Et j'ai trouvé que c'était un titre qui renvoie à un autre aspect, qui était évidemment cette consommation qu'on va voir apparaître, hein, parce que Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, c'est la famille Muliez qui a complètement, je lisais très récemment une histoire de la famille Muliez par Raphaël Baquet, très bien faite, où comment cette famille est complètement dans notre quotidien, sans qu'on s'en rende compte depuis parfois une ou deux générations, et elle nous a complètement fabriqué des envies, fabriqué des frustrations, fabriqué des rêves, et elle l'explique très bien dans ce texte qui est « Regarde les lumières, mon amour ».
Parfait, merci
donc,
beaucoup.
Tout
Bertrand.
Ça pour dire qu'Annie Ernaux, vous n'avez pas le choix. Parce qu'il y a beaucoup de livres et qu'il faut en lire au moins deux ou trois, s'il vous plaît.
Maintenant qu'elle est prix Nobel, ça semble évident.
Il n'y a pas le choix.
Merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt.
Bonne journée à tous.
Ensemble sur Calade.